Oui, bonsoir à tout le monde. C'est la première fois que je donne mon témoignage, mais je vais vous dire tout de suite, moi je vais chercher uniquement dans mon témoignage ce qui était à la gloire de Dieu. Hein. Donc c'est vrai qu'en me retournant sur mon passé, je vais d'abord me présenter, et puis il y en a certains qui vont dire, ben, il a peut-être connu, fréquenté les dinosaures, ou je ne sais pas. Ou... C'est vrai, quand j'étais petit, on faisait encore le feu dans la caverne, mais bon. Non, non, mais trêve de plaisanterie. Juste, je vais prendre au mot ce que vient de dire notre ami Stéphane. C'est vrai que pour moi, je suis en train de relire ce qui s'est passé depuis le mois de mai l'année dernière, où on a changé de tactique, etc., comme étant un des fruits de, d'une demande vraiment pressante que j'avais fait à Dieu, parce que pour un changement de tactique, quoi. Et ça fait partie des choses que je vous raconterai à la fin un petit peu, puisque c'est le maintenant. Donc, mon plan, il est simple. Je me suis converti il y a 33 ou 34 ans maintenant. Il y a le avant, le pendant et le après. Et le maintenant. Et donc je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Denis Boucher. C'est un nom bien français, mais en fait, vous allez voir, derrière, il y a... je ne suis pas vraiment beaucoup français, en fait, en origine. Et ça m'a beaucoup aidé de m'appeler comme ça, parce que du coup, quand j'allais à l'intérieur de la France, on ne me disait pas, tiens, ça c'est encore un Alsacien qui vient nous voir. Donc, j'ai 68 ou 69 ans, oui, je crois, à peu près. Bon, ça veut dire que j'ai 18 ans, pratiquement 18 ans, de majorité, puisque jusqu'à 50 ans ça compte pas, hein, vous êtes d'accord. Donc voilà. Et en fait, je crois que je suis le produit d'une bénédiction. Est-ce que vous croyez qu'il y a une bénédiction qui va se porter sur 1000 ans et une malédiction sur combien? 3-4 générations. Donc moi je sais que je suis le fruit d'une bénédiction. Et elle a commencé il y a très longtemps. Parce que dans ma famille, bien sûr, mon père avait la foi, ma grand-mère avait la foi, et déjà en 1958, donc j'avais 9 ans, elle m'a offert une Bible, et dedans, il y avait un verset qui ne m'a jamais quitté, c'est dans le psaume 119,9, « Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure, c'est en se conformant à ta parole. » J'ai surtout retenu de se conformer à sa parole. Mais croyez-moi, c'est pas aussi évident que ça, et donc il y aura un certain nombre de choses que je vais vous dire qui ne sont pas à ma gloire, mais finalement, le Seigneur va me rendre tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai mal fait, il va me remettre en selle et me donner exactement le double de ce que j'avais eu. Donc, en 58, ma grand-mère m'offre cette Bible, j'étais son chouchou. Elle était d'origine, elle était ménonite, et dans ma famille, je dirais qu'on est d'origine très diverse. Du côté de mon père, c'est d'origine suisse en partie, et d'origine française par le nom. Et puis du côté de ma mère, c'est d'origine allemande et d'origine suisse. Donc si on regarde à 3 générations, personne pratiquement n'habitait en Alsace. 3 générations, c'est-à-dire au 19e siècle. Il n'y avait plus personne qui habitait en Alsace. Mais par contre, l'Alsace a toujours été le point. Moi, j'ai été élevé qu'en Alsace. J'ai connu que l'Alsace. Mais je veux dire, c'était pas ça a été le cas de ma mère également. Mais voilà. Donc, je me sens un petit peu, de temps en temps, rhénan. C'est un peu la seule chose qui est commune. Puisqu'il y a des gens qui viennent de la Forêt-Noire. Dans ma famille, il y a des gens qui viennent du territoire de Belfort, de la Suisse romande, de la Suisse alémanique. Donc voilà, je me sens... alors c'est sûr que j'ai pas une tête d'émigré, mais ce qui prouve bien que quelque part, c'est une question aussi de sale tête, n'est-ce pas? Où on dit, oh oui, lui c'est un émigré, c'est pas bien, mais en fait c'est pas vrai, on est plein. On est tous émigrés. Vous êtes d'accord? Si on regarde à 100 ans, on vient tous de très loin. Bon, moi c'est vraiment que c'est un melting pot. Voilà, donc les noms dans ma famille, c'est vrai qu'à part le nom Boucher, il y a Neuhauser, Roth, Solinger, et j'ai beaucoup de photos en début du XXe siècle où on voit plusieurs membres de ma famille en soldats allemands. Et dans la dernière guerre, c'était mon oncle qui a été enrôlé de force en 1944 dans les SS. Et mon père était dans la résistance. Ils auraient pu se retrouver face à face. Et puis, donc c'est vraiment... c'est une histoire alsacienne, quoi. C'est-à-dire comme on est en Alsace, quoi. Plein de choses comme ça. En 1964, je fais ma confirmation de baptême. Et c'est la première fois... Donc j'étais dans l'église réformée, en 1964, parce que mes parents, mon père a été élevé dans l'église réformée, parce que ma grand-mère, en fait... a dû quitter, comme elle a épousé un catholique, elle a dû quitter son église, quoi. Et puis elle s'est retrouvée donc dans l'église réformée à Belfort. Et à ce moment-là, c'est la première fois où j'ai eu comme quelque chose Dieu qui me parlait. Je m'en souviens encore aujourd'hui. On a fait une retraite en Suisse et j'étais dans une chambre qui s'appelait Barmherzigkeit. Ça veut dire miséricorde. Et j'ai vraiment senti quelque chose d'incroyable. C'est une expérience, on va dire, spirituelle, mais qui ne m'a pas mené très loin d'ailleurs. J'étais vraiment transporté par la miséricorde de Dieu. Mais ensuite, dans les années qui ont suivi, et jusqu'à mes 18 ans, comme j'avais un père qui était assez sévère et qui était austère, j'ai voulu secouer le joug paternel et... J'ai commencé à rentrer à la fin de mon adolescence dans une période de révolte. Et en particulier, je me suis révolté contre les membres de mon église réformée près de Mulhouse, là. Et je les ai traités de cons. C'est pas bien. Et j'ai fait, et là, je voulais juste vous... Quand j'ai relu récemment et que j'ai entendu... vous savez, dans ce que dit Pierre Canga dans Un père avait deux fils, à un moment donné, il dit, il y a la voix du cadet et la voix de l'aîné. Et là, je me suis senti, en préparant mon témoignage, je me suis dit, mais tu as suivi la voix du cadet. C'est-à-dire que j'ai secoué, je me suis révolté, j'ai dit, maintenant, je veux être libre, je veux plus avoir... On m'avait pas, en fait, dans mon église à l'époque, on m'avait pas enseigné l'amour du père, ni surtout... On ne m'avait pas montré que Dieu était quelqu'un à qui je pouvais parler, quoi. C'était austère, c'était tout était basé sur la parole de Dieu, mais en tant qu'adolescent, je voyais bien que c'était des fois qu'un vernis, quoi. Et donc, en plus, je me suis fait trahir par pas mal de gens, quoi, qui, à cette époque-là, je me trouvais en révolte. Et puis, il y avait encore autre chose qui me travaillait. C'est que j'étais influencé par un prof de philo et j'étais très attiré par les existentialistes. Alors, bon, ça, c'est pas quelque chose qui est très courant parce que j'étais fan de Sartre et de Simone de Beauvoir. Et puis aussi, j'appréciais beaucoup la lecture des stoïciens par Sénèque ou alors de Lao Tzu. Le Tao Te Ching, c'est quelque chose que je lisais presque dans le texte original, quoi, parce que... Voilà, c'était une sorte de mystique, mais une mystique, je veux dire, une sagesse humaine, toute humaine, mais qui me semblait tellement importante que j'en avais dans ma bibliothèque des tonnes. J'avais lu toute l'œuvre de Sartre, hein, pour vous dire. Sartre, c'est quelqu'un qui est connu parce qu'il a écrit des bouquins qui sont assez célèbres, mais vous dire aujourd'hui ce qu'il est resté de l'existentialisme dans ma vie, il ne reste pas grand-chose, c'est sûr. Je vous expliquerai après pourquoi ce n'est pas resté. Parce qu'évidemment, le Seigneur a fait le ménage un jour. Hein. Donc, voilà. Et puis, alors, mon maître, quand même, c'était aussi Héraclite d'Éphèse, qui était un philosophe du VIe siècle avant Jésus. Donc... Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Et c'est quelque chose que j'ai tellement reproduit, que je m'en souviens même en grec par cœur. C'est quelqu'un qui disait, et c'était un peu mon leitmotiv, le combat est le père de toute chose. Le combat est le père de toute chose. Et c'était vraiment quelque chose que j'intégrais, c'est-à-dire que je disais, ben finalement, tu devras lutter toute ta vie, lutter, lutter. Je ne pensais pas qu'il y avait un Dieu qui nous aiderait. Non, parce que je n'avais pas reçu ce Dieu personnel, quoi. J'avais eu juste une expérience qui me servira plus tard. Mais, et j'avais ma grand-mère qui avait prié pendant des années pour moi. Donc, vers 18-19 ans, je pète un plomb. Je me libère de mes parents parce que mon père était vraiment quelqu'un qui mettait un joug sur moi. J'étais son aîné et puis il avait des tas de vues sur moi, ce que je devais faire, ce que je ne devais pas faire, etc. Et surtout, c'est vraiment une période, je pense qu'il y a plusieurs jeunes ici qui ne sont pas très loin non plus de cette période, où on a envie de faire des choses par soi-même, de découvrir les propres dons qu'on a. Et j'avais découvert à 17 ans, en Écosse, comme quoi il faut des fois aller loin, j'avais découvert la danse. Et à partir de mes 17 ans et demi, j'ai commencé à créer des groupes de danse, à danser dans différents groupes. Et j'ai dansé pendant 15 ans, et pendant ces 15 ans, je suis même allé jusqu'au Canada pour danser. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait des spectacles, c'était quelque chose qui me prenait beaucoup. Je pesais pas lourd, parce qu'avec l'entraînement qu'on faisait, je pesais dans les 59 kilos. Pour 1m80, mais c'est pas très lourd. Donc, parce que c'est un entraînement très très dur. Et je faisais ça à côté de mes études et à côté de tout ce que j'ai fait après. Et puis surtout, c'était quelque chose qui n'était absolument pas toléré dans ma famille. Mon père n'est jamais venu me voir, parce que pour lui, un homme qui danse, mais même aujourd'hui, j'ai du mal à en parler sans avoir une sorte de serment, parce que un père, c'est important, et mon père avait la foi. Donc le fait que mon père ait la foi et que quelque part je ne le supporte plus, ça m'éloignait aussi de Dieu. Donc, ben à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de mes 19 ans, j'ai vécu juste une année de paix, de bonheur, et tout le reste, c'était la galère de plus en plus profonde. Alors on peut relire facilement en disant, bon, ben très bien, tu as voulu vivre ta vie, c'est vrai que j'ai voulu faire mes choix à moi, me détacher, devenir autonome. Et en fait, très rapidement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vers 20 ans, j'étais donc très engagé dans le scoutisme. Et dans le scoutisme, j'étais responsable régional aussi, à un moment donné. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et on faisait des camps de formation pour les responsables de patrouille, comme on disait à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle une équipe. Et donc, au cours d'un de ces camps, il y a un des responsables qui était avec moi qui m'a dit, bah, écoute, moi je rejoins maintenant sur la côte ma belle famille. Il venait de se marier l'année précédente. J'avais été à son mariage. Et puis, et quand je suis arrivé sur la côte, en fait, j'ai été immédiatement, vraiment, on peut dire, dragué à mort par une des sœurs de la femme de ce copain, quoi. Et je ne me rendais pas compte que je tombais dans un énorme piège, mais j'étais tellement j'étais romantique, et quand on a cet âge-là, enfin en tout cas, on était beaucoup moins cynique, je trouve qu'on l'est un peu aujourd'hui, parce que les jeunes doivent subir beaucoup plus de choses que peut-être qu'on ne supporte. Et donc, je suis tombé éperdument amoureux d'une jeune fille qui avait, donc moi j'avais 21 ans, elle en avait 19 ou 18. Oui, c'est ça, 18. Et donc, pour moi, c'était le bonheur assuré, etc. Et j'ai été reçu dans sa famille, mais alors comme si j'étais le beau-frère idéal, quoi, plutôt le gendre idéal, mais d'une façon incroyable. Et puis, ben, finalement, tout a tourné autour de ça, et au bout d'un an et demi, j'étais marié, à un mariage extraordinaire, où il y avait plus de 300 personnes, c'était dans la région parisienne. Et puis, dans les 3 mois, je suis parti faire ma coopération en Algérie, donc on est allé en couple. Et au bout de 6 mois d'Algérie, ben, ma femme m'annonce qu'elle me quitte, pour aller vivre avec un gars qui avait 25 ans de plus qu'elle. Et moi, j'étais vraiment, on peut dire, très naïf, quoi. Je veux dire, pour moi, je croyais dans l'amour éternel, dans des tas de choses. J'avais pas mes parents pour me dire, attends, ça va un peu vite. Mes parents, en fait, je les snobais parce que il y avait que 10 personnes de ma famille sur 300 au mariage. Et ça, c'était en 71. Alors, je sais pas si vous voyez, ça date, hein. Et je me suis retrouvé tout seul en Algérie. Elle m'a quitté, elle est allée vivre dans une autre maison. Alors évidemment, être dans ce pays étranger sans mes parents, sans personne, j'avais des copains, mais comme j'avais eu un appartement en tant que comme marié, on m'a jeté dehors et j'ai dû aller dans un appartement minable pour célibataire avec d'autres. Et je suis tombé en dépression profonde et j'ai eu vraiment, j'ai été vraiment secouru par des amis, d'ailleurs que je rencontre de nouveau depuis quelques années, là depuis 2-3 ans, je rencontre de nouveau ces amis qui sont un peu éparpillés sur toute la France. Et c'est un gynécologue roumain qui m'a soigné de ma dépression. Il collectionnait des boîtes de fromage, donc c'était un peu... c'était étrange, quoi. C'était assez étrange, parce qu'un gynécologue, pour aller vous soigner d'une dépression, bon, il y a un côté rigolo, hein. Il y a un côté rigolo. À part ça, ben, j'ai beaucoup voyagé. J'ai même été, à un moment donné, menacé, parce qu'on me disait que je... Comment on appelait ça, à l'armée, on déserte. Bon, donc j'ai fait, je pense, 50 000 kilomètres dans une seule année. Avec ma voiture, que j'ai complètement... Et puis, la première chose qui m'est venue quand mon mandat s'est terminé, c'était un mandat de 16 mois, c'est de retourner à Strasbourg, où elle vivait maintenant, et de faire comme si rien n'était, et de recommencer à vivre avec elle. Sans aucune explication, sans rien. Alors j'ai appris par la suite qu'elle avait eu je ne sais pas combien de... d'aventure, que son premier amant, ben, je dirais, bon, c'était un Grec qui vivait en Algérie, donc il n'y avait pas d'avenir. Et on a commencé à vivre comme si c'était rien passé, sans aucune explication. Ça a duré encore 3-4 ans, on a eu des enfants, 2 enfants, et en fait, je me suis rendu compte, c'est son père qui m'a une fois dit... Bah écoute, de toute façon, j'ai appris, si vous voulez, que il avait voulu de force marier ses 4 filles parce qu'il devait partir avec sa maîtresse, quoi. Donc ça, c'était mon beau-père, quoi. Et que donc, les raisons pour lesquelles il y avait eu tous ces incidents, c'est parce que au moment où je l'ai rencontré sur la côte, ma première femme, eh ben, son père venait de la chercher en Espagne où elle vivait avec un... Donc elle avait 18 ans. Hein, où elle vivait avec un gars de plus de 40 ans dans une sorte de bohème, je veux dire, un peu... Je vous rappelle qu'on était dans les années 68, 69, 70. Hein. Aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est, mais ces années-là, c'était des années où on prêchait une libération pas possible. Donc on a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Quand je dis extraordinaire, c'est pas forcément bon. Hein, c'est... Il s'est passé des choses terribles. Pour quelqu'un qui venait du fin fond de sa province, bon, c'était une Parisienne, je dirais, moi je ne pouvais pas imaginer qu'une jeune fille de 18 ans ait déjà vécu ce qu'elle avait vécu. Et en plus, voilà, c'était un vrai traquenard, c'est-à-dire que son père, en fait, voulait. Il a marié, en 2 ans, il a marié 3 de ses filles, et la première était déjà mariée, quoi. Et après, il a quitté sa femme et il est allé vivre avec sa maîtresse. Et donc, peut-être que là, c'est une explication. En tout cas, moi, j'avais fait un premier métier à Strasbourg qui était dans l'industrie. Et puis, en 79, j'ai été appelé à travailler dans la banque à Mulhouse. Et en changeant d'adresse, ça a posé beaucoup de problèmes à mon épouse parce que moi, je pensais que depuis 5 ans, qu'elle était rentrée dans le rang et puis que c'était juste... On n'avait jamais non plus pratiqué le pardon, c'est-à-dire on ne s'était jamais expliqué entre nous. Et donc, j'ai découvert à ce moment-là que en bougeant de 100 km, que bon, il y avait plein de choses, de relations qui du coup, étaient tendues, quoi. Et donc elle m'a proposé, elle m'a dit qu'elle pouvait pas, qu'elle souhaitait qu'on vive à 3 dans l'appartement où on habitait, quoi. Alors moi j'ai dit écoute, ça c'est pas possible, mais il me manquait encore la force, je pouvais pas imaginer je pouvais pas imaginer de briser un mariage. Quoi. Je veux dire, je sais pas, aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus banal de divorcer, mais je veux dire, à l'époque, divorcer, c'était comme une infamie, quoi. Pour moi, c'était une infamie. Et j'étais très mal. J'ai commencé vraiment, pendant les derniers mois de 79, à être tellement malade que je n'arrivais plus à dormir la nuit. Vers 3 heures du matin, j'étais là, angoissé, et ma vie, je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir ? J'ai des enfants merveilleux, j'ai deux enfants merveilleux, qu'est-ce que je vais devenir ? Ça ne peut pas continuer. Je n'ai pas envie de vivre cette vie où je suis juste... Alors c'est devenu tellement exacerbé, je ne rentre pas dans le pathos, mais pour dire, j'ai même cherché un revolver que j'ai emprunté à quelqu'un pour menacer ma femme. Je veux dire que je commençais à se lancer des choses sur la tête. Parce que ça devenait insupportable, mais je n'étais pas capable non plus de prendre une décision. À ce moment-là, mon père, qui était, ça faisait 10 ans que j'avais des mauvaises relations avec mes parents, parce que évidemment, j'avais quitté l'église, parce que j'étais un révolté. En plus, j'avais épousé quelqu'un, mais sans leur demander leur avis. Bon, et puis ils se rendaient bien compte que j'étais pas bien, quoi. Ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé. Mais ils trouvaient bizarre quand même que ma femme soit rentrée 6 mois plus tôt d'Algérie, qu'elle ait vécu toute seule à Strasbourg, qu'en plus elle s'est prostituée. Donc ça non plus, je l'ai appris qu'en rentrant. Donc, et moi je continuais à faire comme si on était un couple normal, quoi. Et mon père me dit, écoute, va voir là le jeune pasteur qui est maintenant à Riedisheim. Il est vraiment bien. Bon. Je vais le voir, et c'est un couple pastoral qui avait 2-3 ans de moins que moi, donc j'avais 31, ils avaient 28, quelque chose comme ça, donc un jeune couple. Et je leur ai raconté ma galère, le fait que je ne pouvais plus dormir, que... Puis je leur ai dit, alors j'aime bien parce que c'est ce que m'a rappelé ce pasteur il y a quelque temps quand j'ai été le voir, tous les deux mots je disais putain. C'était comme un revolver, comme ça. C'est-à-dire que j'étais pas normal, quoi. J'étais hébété, quoi. Et donc, il m'écoute avec beaucoup d'attention. Puis, à un moment donné, on prie ensemble un peu. Enfin, c'est eux qui ont prié. Et puis, ils m'ont dit, écoute, pour toi, je ne vois qu'une solution. Tu rentres chez toi. Il n'y avait plus qu'une pièce qui était meublée. Ma femme n'était presque plus là. Tu te mets à genoux et tu remercies le Seigneur pour la situation dans laquelle tu es. Alors j'avais quand même une culture biblique, puisque dans l'Église réformée, en tout cas j'avais fait tout le cursus. Donc j'étais pas là en me disant qu'est-ce que c'est que la Bible, hein. C'est pas du tout. Mais ça fait plus de 10 ans que je ne l'avais pas ouvert. Et pour moi... je pensais pas que Dieu pouvait venir à mon secours, quoi. Donc j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit de faire. J'étais vraiment là, comme un gars drogué qui va dire bon ben écoute, hein, s'il y a peut-être que ça. J'ai fait ça et je me suis endormi. Et le lendemain, je me suis réveillé vers 7h, donc pas du tout à 3h du matin, et j'étais plein de joie, mais une joie incroyable. Et puis je me rappelle toujours, c'était à Wittenheim, dans un appartement qu'on avait loué. Je me vois encore me regarder dans la glace et dire, mais il n'y a rien qui a changé pourtant. Tu viens pas d'apprendre une nouvelle comme quoi tes enfants vont rester avec toi, que ta vie ne va pas être foutue, parce que je ne pouvais pas imaginer que cette vie s'écroule, comme s'il fallait toujours, comme si ça allait revenir, que c'était qu'un mauvais rêve, quoi. Alors que j'étais, mais on peut dire, je portais beaucoup de cornes. Et donc... il y avait quelque chose qui avait changé, qui était extraordinaire. Donc je me suis dit, donc c'est Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose. Et je l'ai dit à mon pasteur, au pasteur, là, et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux venir une fois par semaine, on fait un groupe d'études bibliques. Et je suis allé tout de suite à ce groupe, et ce que j'ai aussi constaté, c'est que immédiatement, ma femme a commencé à avoir du dégoût pour moi. C'est-à-dire au sens que... Et j'ai appris aussi qu'elle avait fait du spiritisme, quoi. Et elle a commencé à devenir comme si je devenais fou, quoi. Comme si... Et moi, par contre, il y a quelque chose qui a aussi changé. J'étais dans la joie, mais tout à coup, je disais, maintenant, ça suffit, je ne veux plus de tout ça. Et je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je refuse ça. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai demandé, évidemment, conseil au pasteur pour lui dire, écoute, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, mais tu ne peux pas accepter ces conditions de vie. Tu ne peux pas les accepter. Elle est partie, elle fait ce qu'elle veut. Bien. Moi, je n'étais pas encore persuadé que je devais faire quelque chose qui est de l'ordre de briser ces liens. Pour moi, c'était pas possible. Et donc, finalement, c'est elle qui a tout à coup changé en se disant « Mais c'est un autre que j'ai en face de moi. » Et elle a commencé à avoir comme si j'étais hanté de quelque chose, d'une force que... Ça m'a semblé étrange, quoi, qu'elle ne maîtrisait pas. Et ben voilà, on a entamé une procédure. Et puis, à l'époque, la loi n'était vraiment pas favorable aux hommes parce que j'ai eu aucune possibilité d'avoir la garde, même pas la garde alternée, rien. À l'époque, c'était au plus bas de ce qu'il y a comme loi. Et donc, je me suis retrouvé sans aucune autorité parentale ni rien. Et d'ailleurs, au bout d'un an et demi, elle a trouvé quelqu'un en Normandie. Elle est allée à 800 km et je me suis tapé pendant plusieurs années. Tous les 15 jours, j'allais jusqu'à Caen pour aller chercher mes enfants, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là aussi, au niveau de ma vie? Eh bien, il y a eu plein de choses qui ont changé. D'abord, non seulement je suis allé toutes les semaines à ces études bibliques, et c'est là que ressurgit plein de choses que je savais déjà. Et c'est là que j'ai rencontré Théo Hamann, que j'ai rencontré d'autres que certains connaissent, des gens qui aimaient la parole, qui aimaient... J'ai été au groupe de prière aussi, mais on a commencé à prier. Heureusement, mon pasteur était charismatique parce que... Alors lui, il m'a dit, non, mais tu restes pas chez moi. Moi, je veux que tu fasses le tour de toutes les églises de Mulhouse pour savoir où est ta place. Mais tu viens certainement pas chez moi juste parce que c'est moi qui étais l'intermédiaire, on va dire. Donc, j'ai fait ça. Mais j'ai trouvé que c'était ridicule, quoi. Alors, j'étais une semaine là, et puis une semaine là, et puis une semaine là, bon. C'est pas comme ça, je pense, qu'on doit faire. Mais bon, lui, il voulait absolument pas être là. Et donc, je suis allé chez Théo Hamann. À l'époque, il y avait une église rue du Jura, à Riedisheim. Et puis, au bout de 2 ans, ben, pour dire, je trouvais qu'il y avait... J'avais besoin de guérir de plein de choses. Et je trouvais que là, ça me faisait peur, quoi. Ils n'avaient pas... il y a eu des choses qui n'allaient pas. Donc j'ai dit au pasteur Peter, qui était le pasteur, donc le premier que j'avais rencontré, j'ai dit, écoute, je préfère venir chez toi. Je sais que chez toi, c'est dans l'église réformée, que toi tu es mis au banc de l'église réformée parce que tu es pédobaptiste, c'est-à-dire qu'il refusait de baptiser les jeunes, les bébés. Je dis, et en plus on sentait qu'il y avait du roussi, quoi. C'était qui mérite. Enfin. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, on s'incrustera, on fera. Et pendant cette période, il y a plein de choses que le Seigneur a fait pour moi. Par exemple, tout ce que j'avais comme fardeau par rapport à... Il m'arrivait encore quand je rentrais à la maison de dire, tiens, ça, c'est peut-être, je pourrais relire un petit peu Sartre, ou je pourrais relire un peu Lao Tzu, ou je pourrais relire des choses soulignées. Hein. J'ai des bouquins, j'en avais tellement que... Et donc, un jour, on m'invite à une réunion où il y avait une personne qui était là, qui avait des paroles de connaissance. C'est-à-dire qu'elle avait un don de connaissance, quoi. Et je m'attendais à des tas de choses, sauf ce qu'elle allait me dire. Elle ne m'a pas dit, parce que je craignais, je disais, oh là, elle va dire un truc là, que je n'ai pas fait, qui est mal fait. Non, non. Elle m'a dit, écoute, je crois que le Seigneur veut te dire que tu bois à deux sources différentes. Ah bon, je bois à deux sources différentes. Oui, de temps en temps, tu vas voir dans autre chose, je vois des livres que tu vas consulter. Personne n'était au courant, même pas le pasteur. Bon. Alors je lui dis oui, c'est vrai, j'aime bien relire des fois Lao Tzu ou Sénèque, ça me fait du bien. Alors c'est peut-être pas la lecture de tout le monde, mais bon. Et puis j'aimais bien lire Simone de Beauvoir quand même, c'est quand même une femme celle-là, hein, elle a écrit Le deuxième sexe, je sais pas si vous savez, hein, mais franchement, hein, c'est très bien ça, hein. Ouais, oui. Et j'ai dit ça, oui, que j'avais tout ça, et elle m'a dit, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, puis elle m'a dit aussi, chez toi, il y a quelque chose qui... J'avais une... Quelqu'un m'avait offert la statue d'un dieu égyptien, c'était le dieu un chat, vous savez, un chat comme ça qui est... Et elle m'a dit, Seigneur, n'apprécie pas ça. Alors, je dis, oui, mais je l'adore pas. Alors elle dit, oui, mais ça fait rien, c'est quand même dans ta maison, quoi. Donc le pasteur m'a dit, écoute, si tu as des bouquins sur ça, je connais un pasteur qui est en train de faire des recherches sur tous les personnages que tu as dans ta bibliothèque. C'était un pasteur de Ostheim. Je lui ai donné deux énormes caisses avec les bouquins, quoi. Et puis, j'ai cassé du coup ma statue, là, je l'ai cassée, puis je l'ai jetée, quoi. Voilà, donc pour dire, et puis le Seigneur m'a aussi fait... comprendre le sens du mot pardon. J'avais tellement de choses à pardonner à ma première épouse, vous ne pouvez pas imaginer. Et la chose n'a pas été facile parce que chaque fois que, par exemple, c'est elle qui me harcelait, par exemple, en me demandant encore des choses alors qu'elle avait tout, quoi. Elle avait tout, il me restait un lit, un bureau. C'est tout. Et on avait occupé un appartement de 100 mètres carrés, hein. Il y avait des tas de meubles, des tas de choses. Et elle me disait encore, ah oui, dans ta bibliothèque, il y a un bouquin que j'aimerais bien avoir, il vient de ma grand-mère. Je dis, oui, mais c'est ta grand-mère qui me l'a donné. Et finalement, je lui ai donné. J'ai dit, écoute, je ne vais rien retenir, rien... Alors j'ai dû lui pardonner, évidemment. J'étais vraiment hanté par la trahison, quoi. Par la trahison, par le... Et puis, évidemment... Ce qui m'aidait pas beaucoup, c'est que j'étais devenu finalement chrétien. En quelques mois, j'ai parlé en langue, puis j'ai commencé à vraiment à trouver, je sais pas, que c'était comme la paix. Il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Et je l'ai retrouvé l'autre jour un texte sur comment il s'appelle, Spurgeon. Qui m'a troublé parce que c'était exactement ce que j'ai ressenti à l'époque. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est-à-dire que c'est, moi, la phrase qui m'a vraiment ravagé, quoi, on va dire, dans le bon sens, quoi, c'est ça. Quoi. Il n'y a maintenant aucune condamnation, c'est dans Romains 8.1. Et le Seigneur m'a libéré de toute culpabilité. Il m'a fait sortir d'une prison dans laquelle j'étais, une prison de voilà, on doit être... J'étais prisonnier d'un certain nombre de conventions, alors qui sont. Ça peut paraître bizarre, mais je veux dire que voilà, ce qui est le plus important, c'est de rester marié, mais de supporter tout ça. C'est exactement dans ce plan que j'étais, quoi. Et de devenir de plus en plus une sorte d'esclave, de personne. Mais c'était pas possible, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des conventions qui me libéraient du péché, que je pouvais marcher sans entrave comme un homme libre. Vraiment, j'ai senti une libération incroyable, incroyable, incroyable. Évidemment, j'ai mis des mois à demander des preuves à mon pasteur que si je me séparais, je n'étais pas damné définitivement, quoi. Ce n'était pas possible pour moi de briser ce lien. Et finalement, il m'a montré qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu avait permis que ça se fasse. Et dans ces années de conversion, c'était entre 82 et 83, il s'est passé énormément de choses. Par exemple, un jour, il y a un ami qui me dit, écoute, viens à Bâle avec moi, il y a une femme formidable, c'est une ancienne femme d'affaires en Angleterre, c'est une Suissesse, et elle a vraiment des études bibliques très profondes. Je vais à Bâle, et là, immédiatement, j'ai su que c'était... quelqu'un avec laquelle j'allais avoir des atomes crochus. C'était une femme qui avait à l'époque 61 ou 62 ans. Donc elle a 30 ans de plus que moi. Et on a tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et pour vous dire, elle est devenue ma coach pendant 30 ans, pendant 28 ans exactement. C'est une femme qui est décédée maintenant, mais c'était vraiment quelqu'un, toutes les semaines, on était en contact pendant 28 ans. Une ancienne femme d'affaires à Londres, qui est devenue pasteur ensuite, et qui était pasteur itinérante pour, comment il s'appelait cet homme-là, qui en Suisse a fait le centre de formation chrétienne. Ah, un Suisse qui a été assez célèbre là, comment il s'appelait ? Maurice Ray. C'était un compagnon, enfin une compagnonne d'œuvre quoi, de Maurice Ray. Et pendant 28 ans, j'ai fait également du coup le centre de formation chrétienne de Genève. On se rencontrait toutes les 6 semaines à Bâle pendant ces 28 ans. Donc c'est vraiment, on va dire, quelque chose d'extraordinaire. Ça a été pour moi, oui, un vis-à-vis, quoi. Une sorte de mentor, moi je dirais un coach, parce que elle n'a jamais rien loupé. Je veux dire que et pourtant, elle habitait assez loin, quoi, finalement. Mais on se voyait quand même toutes les 6 semaines, quoi. On se voyait physiquement. Voilà, donc il y a eu ça. Et puis il y a aussi le fait que je ne pouvais pas imaginer que ma vie, ce soit une vie célibataire. Donc on a prié avec un frère. On a prié pour dire, Seigneur, donne-nous vraiment de rencontrer quelqu'un, d'être béni, mais quelqu'un que toi, tu choisiras. Et ça s'est passé. C'est-à-dire que j'ai vraiment su, quand j'ai rencontré ma femme actuelle, j'ai su que c'était la femme de ma vie. Même si on a eu des épreuves, si aujourd'hui on a des épreuves, je veux dire que... Comment expliquer ça? Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment que c'est. Le cadeau, quand le Seigneur vous fait un cadeau, même si après... je veux dire, on reste des imperfections, mais j'ai toujours su que c'était le plan de Dieu. Et donc, on a eu vraiment... alors, ce que je suis aussi en même temps dans la réponse à la prière, c'est que le Seigneur allait me donner tout ce que j'avais perdu. Et il me l'a donné en double. Pourquoi ? J'ai eu 2 enfants dans le même ordre, c'est-à-dire un garçon et une fille, mais aussi... Mes enfants plus âgés, ceux que je voyais moins, je les ai reçus à nouveau. C'est-à-dire que ma nouvelle femme est devenue, en quelque sorte, leur mère. Pourquoi ? Parce qu'elle a vécu une situation telle qu'à un moment donné, avec son mari, son nouveau mari, il a voulu partir en Afrique. Et à un moment donné, elle a carrément abandonné ses enfants, quoi. Elle les a laissés, l'un avait... L'un avait 18 ans par là, oui, 18, et l'autre avait 16. Et donc, ils sont venus, on les a vus beaucoup plus souvent, et surtout, c'est devenu, comment dire, ils sont devenus proches parce qu'ils ont eu besoin de moi. Ils ont eu besoin de moi. Et on s'est vus très souvent, et on a été leur soutien. Et donc, pour tout ce que j'avais également perdu au niveau, ben, je dirais... matériel, au niveau, tout ça m'a été redonné et je me suis retrouvé vraiment avec énormément de bénédictions pendant tout ce temps-là. Après, il s'est posé aussi la question suivante, c'est qu'est-ce que tu vas faire maintenant dans ton métier ? Et dans ma nouvelle foi, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui m'ont encouragé à faire le métier que j'ai fait. Alors ça aussi, j'ai demandé au Seigneur des confirmations, puisque j'étais devenu, au moment de ma conversion, c'est de l'année où je suis devenu banquier. Et les chrétiens me disaient, écoute, c'est tout juste, ils ne me disaient pas, va adhérer trop Satanas, hein. C'est-à-dire que sors de là, de ce lieu de péché. Et moi, j'avais une conviction, c'est que ma place, c'était là. Donc, et je pensais que j'allais être béni en restant là. Mais je ne savais pas comment, parce que j'avais aucun modèle. Aucun modèle, aucun. J'avais justement un frère qui m'a dit, écoute, si tu veux, il y a l'association ACT, qui est une association suisse, qui ressemble un petit peu à les hommes d'affaires du plein évangile, mais en beaucoup plus hommes d'affaires. Et donc, je suis allé aux réunions ACT, encore une fois en Suisse, et là, j'ai été très encouragé, parce qu'il n'y a dedans que des gens qui soit dirigent des entreprises, soit sont dans les affaires, et j'ai su que c'était ma place, de manière vraiment, on peut dire, incroyable. C'est que quand vous avez, c'est pas juste une conviction, c'est quand vous êtes dans la paix et dans la joie par rapport à quelque chose en disant, le Seigneur, tu as préparé quelque chose d'avance pour moi. La seule chose, c'est que le Seigneur m'a demandé de mettre une limite. Et en en parlant avec le Seigneur, je veux dire qu'à l'époque, ma limite, donc j'avais 32, 33 ans, et ma limite a été uniquement de dire, de devoir lui dire jusqu'où j'irai, pas plus. C'est-à-dire de lui dire, Seigneur, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont venir, quoi. On va me donner des promotions, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu m'emmènes là ou est-ce que tu m'emmènes là? Et donc finalement, la limite, c'était de rester directeur d'agence, pas plus. C'est-à-dire d'être dans un rôle de terrain. Et quand on m'a proposé plus tard de devenir directeur régional ou d'aller sur un poste plus important, j'ai toujours refusé, avec la paix dans mon cœur, en sachant que j'avais mis les limites. Et ces limites, c'était celles que Dieu voulait pour moi. Que je ne devienne pas finalement... Voilà, que je n'avais pas à vouloir plus parce que c'est là qu'il allait me bénir, quoi. Donc pour le choix du métier, je dirais que c'est vrai que pendant longtemps j'ai cherché comment faire. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus, mais je sais que certains m'ont encouragé. Alors j'en ai pas mal à distribuer, à prêter. Par exemple, il y a un des plus anciens, c'est le livre de Le Tourneau sur Dieu dirige mes affaires, qui est un livre très encourageant que j'ai prêté justement récemment à quelqu'un dans la cellule de prière. Mais il y a eu d'autres. Hein. Je vous encourage à lire justement des livres de témoignages, des biographies, quoi. Parce que c'est dans les biographies que vous allez rencontrer, tout à coup, vous allez pouvoir vous identifier à des personnes. Moi, je sais que j'ai été vraiment élevé par la vie de Hudson Taylor. C'est une vie extraordinaire qui est racontée par le menu, quoi. Voilà, donc je m'attendais à tout sauf à ce qui allait suivre. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 ans, mon pasteur, qui était chez qui j'étais, à Rixheim, son église l'envoie à l'autre bout de la région, il l'envoie à Longwy, près de Longwy, à Fontoy. Et puis le pasteur qui vient le remplacer, il a tout de suite supprimé le groupe de prière, il a tout de suite... disons qu'on s'est senti persona non grata, comme on dit, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus toléré. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, c'était vraiment embêtant parce que on avait quand même un soutien, et puis j'étais un jeune chrétien, hein, j'avais que quelques années de... Donc, je dirais que j'ai pas bougé. On s'est réunis de temps en temps avec le groupe de prière. Et puis à un moment donné, on m'a proposé professionnellement d'aller travailler comme sous-directeur à Colmar, dans la plus grande caisse de crédit mutuel. C'est une caisse qu'il y avait à l'époque dans les 60 salariés, quoi. Et là, je ne me rendais pas compte que ça allait être un endroit où j'allais beaucoup souffrir parce que c'était une sorte d'endroit néfaste, très néfaste. Il y avait énormément de choses qui s'y passaient qui n'étaient pas claires. Et j'ai eu du boulot, mais alors on peut dire par-dessus la tête, à un point que c'est mon stress qui, à un moment donné, a failli me tuer, puisque j'ai eu un accident cardiaque en 90, quoi. Donc, infarctus, 6 mois d'absence, et quand je reviens au boulot, on m'avait remplacé, puis on m'a dit, on veut plus de toi... La direction régionale m'a trouvé un boulot en Lorraine, je suis allé en Lorraine, et puis je commençais à désespérer parce que j'avais pas justement autour de moi le corps de Christ, quoi. Parce que tout le monde était en débandade, tout le monde était, comment dire, dispersé, tout simplement parce qu'il y avait un nouveau pasteur, mais qui était quelqu'un qui n'y comprenait rien à ce qu'on faisait, quoi. Peut-être qu'on s'était éloigné de ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être dans ce genre d'église, on ne sait rien. Bon. Et donc, j'ai dû faire un nouveau choix professionnel. Et j'ai fait ce choix en acceptant finalement des missions pour une direction régionale. Puis, il se trouve que ça m'a permis de me reconstruire facilement, de reprendre confiance en moi. Mais ça n'a pas empêché qu'au bout de 2-3 ans, on soit obligé de m'opérer, on m'a fait un quadruple pontage du cœur, quoi. Et là, j'ai vraiment pensé que c'était fini, quoi, que Dieu m'avait abandonné. Je ne savais pas pourquoi. Et au moment d'aller à l'hôpital à Strasbourg pour aller me faire opérer, parce que c'est quand même une opération grave, hein, c'est une opération où on est à cœur ouvert avec la circulation extracorporelle, enfin. Et puis surtout, on est pendant une semaine en réa parce qu'il faut absolument que le cœur reprenne des forces pour éviter d'en faire une embolie. Enfin. Et autour de moi, quand j'étais en réa, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont décédés parce qu'il y avait des gens plus âgés aussi qui étaient opérés là. Mais pour dire, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais très effrayé. Je devais être opéré le lendemain matin. Et ma femme est sortie de la chambre pour aller voir les infirmières. Et puis il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre et puis qui m'a dit « Vous voyez, là, il y a 4 jours, monsieur, il y a 4 jours, moi, j'ai été opéré, maintenant je marche, je suis très bien. » Et qui m'a encouragé. Et qui m'a dit « Mais Dieu est avec vous, qui m'a vraiment... » Et puis il est sorti. Mais j'étais tout... C'est comme si... Et quand ma femme, elle est rentrée quelques secondes après, j'ai dit « Mais tu as vu, tu as croisé le monsieur là qui est sorti ?» Elle dit « Mais il n'y avait personne dans le couloir. Je ne sais encore pas aujourd'hui qui c'était et qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue me voir. Mais je suis certain que c'est vraiment un ange qui est venu me parler pour m'encourager. » Et j'ai prié à ce moment-là pour demander au Seigneur que je ne voie pas la salle d'opération. Parce que j'avais trop peur, quoi, de tout ce qu'il y a dans ces... Surtout qu'on nous met sur une table... On nous met sur une table où, quand on nous ouvre, on est mis de côté comme ça, pour écarter en plus. Et puis, le médecin m'a raconté ensuite comment que ça se passe. Je veux dire, franchement, je préfère... Eh bien, je n'ai rien vu. C'est-à-dire que je me suis endormi dans le couloir. Et je me suis réveillé en réa 24 heures après. Alors ça a été difficile, mais finalement, 2 mois après, je travaillais. 2 mois après, je travaillais. Et à l'époque, j'étais déjà directeur depuis 2 ans. Et je me disais, bon, t'es fini, c'est-à-dire que professionnellement, tu n'auras plus les forces d'assumer, quoi. Et en plus, t'es pas là pendant 2 mois. Les souris dansent pendant que le chat n'est pas là, hein. C'est une année où on a fait du meilleur résultat qu'une année où j'étais 12 mois là. C'est-à-dire que j'ai eu aucun problème de remplacement. Je n'étais pas remplacé, mais je veux dire, je n'ai pas eu de problème avec mon équipe. Quoi. Mais le Seigneur voulait m'amener encore ailleurs. Et donc, en 2004, donc bien plus tard, alors que je travaillais encore en disant « Le tiroir professionnel, c'est un tiroir dans lequel il n'y a que le professionnel et Dieu n'est pas dans ce tiroir. » Parce que je ne peux pas l'y mettre, puisqu'il ne connaît pas... je disais carrément, voilà, il ne sait pas comment ça marche, quoi. Et là, en 2004, j'ai lu le livre de Ed Silvoso, que certains d'entre vous, je leur ai déjà donné. Il faut vraiment le lire, hein. En français, il existe en français, c'est comme ça en français que je le distribue. Il est édité par les éditions La Lumière de la Vie. Il y en a encore 200 ou 300 exemplaires dans les CAF des Becs. Donc, hein. Et donc, j'ai lu ce livre en février 2004. J'ai appliqué à la lettre ce qui est indiqué à un moment donné dans ce livre en disant, c'est tout simplement la traduction de Marc. De Luc 10, au moment où Jésus envoie ses disciples. C'est vraiment appliqué à la lettre. Et j'ai vu des miracles se passer. Et j'ai eu tellement peur, au bout de 6 mois, je me suis dit, qu'est-ce qui peut se passer? La puissance de Dieu, elle m'a effrayé comme Pierre, vous savez, quand il était au moment de lancer le filet et qu'il revenait avec des bateaux pleins. Exactement la même réaction, une réaction d'épouvante. Et c'est que récemment que j'ai compris ce que ça voulait dire. Et donc, je sais qu'aujourd'hui, la caisse dans laquelle j'étais est encore au bénéfice de ce que le Seigneur a fait. encore aujourd'hui, je leur ai témoigné, je leur ai dit il y a encore 6 mois, je dis, vous êtes vraiment au bénéfice de ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui l'a fait. Moi, je n'ai rien fait. J'ai juste appliqué ce que lui, il me disait de faire. Et c'était quoi ? C'est de prier tous les jours pour tous les salariés à leur poste de travail. Si ce n'est pas des chrétiens, tu pries en leur absence, mais tu pries sur leur poste. De dire à tout le monde qu'ils font partie d'une équipe et que cette équipe, on va les défendre. Même s'il y a des gens, il y a des gens qui étaient les bras cassés, qui n'étaient pas bons. Et de les bénir tous les jours, de bénir les clients, de bénir... Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait des millions et des millions de rentrées. Donc là, j'ai vu la puissance de Dieu dans mon travail. Donc il m'a fallu tellement de temps pour le voir parce que je suis un peu ch'tour. Je suis un peu ch'tour, ça veut dire un peu buté, oui. Mais voilà, et le Seigneur a toujours réparé ce que les bêtises que j'ai faites. Parce que pendant ces 10 ans, à peu près 10 ans où j'ai été dans mon premier mariage, où je ne vous dis pas, j'ai jamais maudit Dieu parce que je ne savais pas. J'étais un peu comme, comme le fils cadet qui se dit au bout d'un moment, bon, moi j'en ai marre de manger ce que mangent les cochons. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'il m'a rattrapé. Et il m'a rattrapé de manière incroyable, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire cette joie, elle ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que quand, même si je peux crier et pleurer, je sais que le Seigneur va me répondre. Vous connaissez ces... Je vais vous dire quelques passages que vraiment... qu'il faut prendre au pied de la lettre. Par exemple, dans le psaume 138, il est dit « Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis, tu interviens pour me sauver. » C'est au verset 7 et 8. « Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Je l'ai reçu comme étant pour moi et pour vous, vous pouvez le recevoir pour vous. L'œuvre qu'il a commencée en vous, il va la terminer. » C'est sûr. Peut-être pas par des chemins auxquels vous auriez pensé. Moi, vous croyez que j'avais pensé que, après ma conversion, après toutes les réparations que le Seigneur a fait dans ma vie, après les fruits du pardon, parce qu'il y a eu des fruits au pardon, les relations avec ma première épouse, aujourd'hui, elles sont très bonnes. Elle a même fait un témoignage à toute sa famille pour dire que le seul dans sa vie qui n'avait jamais été présent et qui était resté debout, c'était moi. Et elle m'envoie encore des mots de temps en temps parce qu'elle est gravement malade en ce moment. Elle sait que je vais prier pour elle. Donc, je veux dire que il y a vraiment des choses qui se passent dans la vie des gens. Donc, le pardon, mais aussi la réparation, le retour de plein de choses, mais aussi pourquoi la maladie ? Pourquoi tout à coup un infarctus ? Même si, il arrive des choses aux chrétiens. Mais moi, ça m'a servi. Je veux dire que ça m'a servi énormément. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai pu prier pour des gens. Je me rappelle d'avoir été dans une chambre du diaconat à Mulhouse. Je venais d'être opéré, donc c'était en 96. Je venais d'être opéré. J'étais hyper fatigué, donc j'avais passé une semaine en réa. Et ensuite, on m'a déménagé de Strasbourg à Mulhouse. Et donc, ça faisait une semaine que j'étais opéré, quoi. Je ne sais pas si vous voyez quand c'est une opération où déjà, vous n'arrivez presque pas à respirer parce que on vous a recousu ici. Bon. J'arrive dans une chambre. Il se trouve qu'on n'a pas pu me trouver une chambre où j'étais seul. Il y avait un autre homme dedans. Et en plus, il y avait des personnes qui lui parlaient de sa famille. Et j'ai commencé à maugréer, à dire à ma femme, mais qu'est-ce que c'est ça ? En plus, ils font du bruit. Je suis fatigué, je veux dormir. Et ça s'entendait. J'avais envie que ça s'entende. Et les gens sont partis. Ma femme aussi, un petit peu gênée. Et puis, j'ai vu que... Moi, j'avais mis ma Bible sur ma table de nuit. Puis lui, il a vu que j'étais chrétien. Et puis, il s'est retourné vers moi. Puis il m'a dit, vous êtes chrétien. Est-ce que je peux vous raconter quelque chose ? Et il m'a dit que, c'était un frère étroit, un darbiste. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous pourrez vous demander. Et il se trouve qu'il était rejeté par son église parce qu'il était malade. Alors, j'ai jamais vu ça, mais bon. Oui, parce qu'il devait certainement avoir péché, fait quelque chose. Et on a parlé la moitié de la nuit. Et j'ai prié pour lui. Un autre, une fois, dans le jardin aussi du diaconat, un homme qui avait eu la même chose que moi, mais plus âgé, et puis il gênait, il disait oui, je suis pas bien, parce que ça, ça fout une sacrée trouille, hein, quand c'est le cœur qui est atteint. J'ai eu plusieurs années d'angine de poitrine, je ne vous dis pas, hein, vous avez vraiment l'impression que vous allez mourir, quoi. Et c'est des douleurs très particulières. Et donc, j'ai pu l'encourager, j'ai pu vraiment faire des promenades avec lui, lui parler. Et finalement, aujourd'hui, il est dans un groupe, dans une cellule de maison, de la porte ouverte. Et c'est quelqu'un pour lequel c'était une épreuve, parce qu'il avait bien 25 ans de plus que moi, quoi. Mais pour dire, le Seigneur m'a toujours utilisé quand j'étais à l'hôpital, donc ça prouve que peut-être qu'il y avait des choses, là, juste une chose à faire à ce moment-là. Et je me suis souvenu à ce moment-là de tout ce que m'avait dit ma grand-mère. Et je savais aussi que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que donc il n'allait pas changer parce que tout simplement, il y avait des choses, des circonstances qui étaient graves. Et il est dit dans le psaume 138, « N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Et l'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. » Je me suis souvenu aussi que dans le psaume 46, au verset 2, il est dit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, toujours offert lorsque survient la détresse. » Et combien de fois on a des moments où on est dans la détresse parce que c'est des choses qui ne fonctionnent pas comme on voudrait. Mais il a toujours été là. Voilà. Et je peux dire que le royaume de Dieu, ça ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Cette puissance, c'est celle de l'Esprit Saint qui change la vie des chrétiens et les fait agir comme Dieu veut. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez passer par des épreuves. Elles seront peut-être complètement différentes. Ça sera peut-être des choses... Mais moi, ça m'a renforcé. Et je sais que... j'ai reçu à mon baptême, parce que je me suis fait baptiser... par immersion en 90, donc 10 ans, presque 10 ans après ma conversion, n'en pouvant plus parce que je considérais que c'est pas moi qui avais choisi pour mon baptême. Bon, c'est pas un encouragement à le faire, mais c'est de dire voilà, j'ai trouvé que c'était important. Et là, j'ai reçu plein de choses et plein de paroles qui m'ont été données parce ce que m'avait déjà dit mon pasteur avant, mais qui n'avait pas été dit par des inconnus, mais par des gens qui me connaissaient bien, en particulier sur le fait que... Alors à l'époque, c'était sur l'enseignement, sur l'esprit de Néhémie aussi. Et sur des formes particulières, en tout cas dans les affaires, sur un rôle particulier. Donc j'ai pris ça à cœur et j'ai commencé à accompagner, comme l'avait fait pour moi une personne pendant 28 ans. Et je suis en train d'accompagner un homme d'affaires qui est un chrétien. Et donc, je sens qu'il y a une grande bénédiction dans ce que je fais, parce que c'est comme si je répondais à un appel. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Mais pour dire, le Seigneur nous prépare des choses, et il va nous mettre dans des situations qui permettront soit de dépasser nos épreuves, soit de rentrer dans les projets qu'il a préparé d'avance pour nous. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais un certain temps. Voilà. J'ai un peu la crève, c'est pour ça que je ne suis pas...